Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La minorité chrétienne en Égypte a-t-elle besoin de protection? La question divise alors que le contexte demeure explosif. Nous parlerons de l'Égypte dans ce magazine. Vous entendrez un haut responsable de la curie romaine, mais nous parlerons aussi de la Tunisie ainsi que du Qatar en fin d'émission. Dans ce magazine également, les menaces qui pèsent sur le patrimoine religieux en Europe, sans oublier la petite escapade de Benoît XVI dimanche hors de Rome. En Égypte, 82 églises chrétiennes auraient été brûlées en deux jours par les frères musulmans selon l'Union égyptienne des droits de l'homme. Les Coptes égyptiens qui souffrent depuis longtemps de discrimination sont lourdement visés depuis la destitution du président Morsi. Une équipe de France 24 s'est rendue dans une église de Gizeh. Celle-ci n'est plus qu'une carcasse vide, racontent les journalistes. Les bancs sont à moitié carbonisés. Des restes de vêtements liturgiques et de bibles en arabe sont visibles au milieu des cendres. Au Vatican, le pape François a affirmé dimanche qu'il continuait à prier pour la paix en Égypte. La situation égyptienne dans toute sa complexité est suivie dans le monde entier, y compris par le Saint-Siège. Nous avons joint le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales.
Nous sommes très très concernés par la situation de l'Égypte. Avec les Saint-Pères, nous pensons que seulement les dialogues et la réconciliation sont les voies pour l'avenir de l'Égypte. Nous sommes très proches de tous les chrétiens et nous commençons à penser toujours à notre pape Tawadros de Sienne et à tous les chrétiens, aussi à nos catholiques, les patriarches Émérite Naguib et aussi au patriarche Sidrac. Nous prions pour eux, pour leurs églises et nous souffrons avec eux et nous espérons que tout l'Égypte puisse reconduire son futur à la réconciliation et à la paix. Il n'y a pas de futur sans respect des uns pour les autres et donc nous espérons qu'entre les chrétiens et les musulmans puisse vraiment croître la réconciliation et l'amour. Et l'Égypte a donné un exemple dans l'histoire de convivance, de respect mutuel et donc nous espérons que ça puisse se faire aussi dans le futur.
Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, interrogé par Manuela, à Fidji. Le scénario égyptien peut-il se répéter en Tunisie? Actuellement, ce pays reste plongé dans la paralysie politique déclenchée par l'assassinat le 25 juillet du député Mohamed Brahimi, assassinat attribué à la mouvance djihadiste. Opposants et islamistes ont admis avoir tenu des pourparlers secrets en Europe sans pour autant obtenir de percée. Le cabinet actuel est accusé d'avoir failli sur le plan sécuritaire face à l'essor de la mouvance salafiste, mais aussi dans le domaine économique alors que les revendications sociales étaient au cœur de la révolution de janvier 2011. L'économie tunisienne agonise et les sociétés étrangères ont quitté le pays ou envisagent de le faire. Et pourtant, la situation en Tunisie n'est pas comparable à celle d'autres pays de la région. Beaucoup en sont convaincus. Parmi eux, Jean Fontaine, père blanc. Il vit en Tunisie depuis 56 ans. Spécialiste de la littérature arabe, il a dirigé l'Institut des Belles-Lettres Arabes. Il s'est occupé des malades du sida et des prisonniers étrangers. Il invite l'Occident à éviter les simplifications.
Mes sentiments sont ceux d'un disciple de Jésus. Alors d'abord, je reste. Ensuite, je milite pour la non-violence. Il y a aujourd'hui l'Institut Einstein à Boston qui s'occupe des révolutions non-violentes. Et grâce à cet institut, je peux donner des informations et aider les contacts pour que la société civile tunisienne et les partis politiques du centre travaillent dans cette direction de la non-violence. Donc pour ce qui concerne la vie ordinaire, je continue à rendre visite au moins 3 ou 4 soirs par semaine à des familles. Et pour ce qui concerne le reste, nous les chrétiens, on n'a strictement aucun problème. Il suffit d'être prudent, c'est tout.
Y a-t-il des risques d'explosion sociale en Tunisie, selon vous? Craignez-vous une dérive violente?
Je ne pense pas pour deux raisons au moins. La première, c'est que le Tunisien a un tempérament plutôt pacifique. C'est un pays de plaine, il y a une seule montagne, elle n'est pas très élevée, le mont Charmli, à 1500 mètres. Deuxièmement, il y a très peu de Tunisiens Tunisiens qui ont des armes. Et ces derniers temps, les services de sécurité ont fait un gros travail pour essayer d'arrêter ces armes qui viennent de Libye. Donc voilà, je pense que c'est pas dans notre tempérament la violence. Si vous regardez ce qui s'est passé au moment de ce qu'on appelle la révolution, il y a eu 260 morts et 3000 blessés. Par rapport à ce qui se passe ailleurs, en Algérie, en Libye, en Égypte ou en Syrie, c'est rien du tout. Et ça correspond au tempérament tunisien.
Donc, à votre avis, la situation n'est pas comparable à celle des autres pays concernés par ce qu'on appelle le printemps arabe ?
Alors, elle est comparable dans la mesure où ce sont les mêmes forces qui agissent, mais elle n'est pas comparable parce qu'il faut tenir compte du tempérament de la population ici et de leur manière habituelle de résoudre les problèmes.
La situation en Tunisie, si je vous comprends bien, est actuellement la plus prometteuse. Pensez-vous que les troubles vont s'achever bientôt ?
Ça, moi, je ne suis pas prophète, hein. Je ne suis pas politologue non plus. Mais dans tous les pays où j'ai vécu, que ce soit au Liban ou en Algérie en particulier, pendant les guerres civiles, quand les gens en ont assez, ça s'arrête. Et aujourd'hui, je pense que les Tunisiens en ont assez, donc ça risque de s'arrêter assez vite.
Et vous-même, en tant que missionnaire, quelle est votre présence dans la société tunisienne ?
Mon idée, c'est que l'Évangile, les valeurs de l'Évangile sont valables pour tout le monde. Et les Tunisiens, s'ils découvrent Jésus, ils peuvent devenir musulmans christiques, comme moi je deviens chrétien christique. Il n'y a absolument pas besoin de parler de religion, de la religion en tant que islam ou judaïsme, et d'envisager un changement. Pour moi, ça n'a aucun sens. Les valeurs, les paraboles sont valables pour l'humanité entière, et si ce message de Jésus peut passer dans le cœur des Tunisiens que je rencontre, c'est l'amour de Jésus dans mon cœur rencontre l'amour de Jésus dans leur cœur, et c'est comme ça que ça se passe. On partage une foi dans le rôle du Christ dans le monde sans pour autant s'accrocher à notre religion.
Y a-t-il un message que vous souhaiteriez adresser à l'Occident et aux chrétiens ?
Mon message est très facile. Ne dramatisez pas. Parce que plus l'Occident panique et a peur, et moins nous avons ici les chances de pouvoir nous en sortir. Si au contraire, en essayant d'analyser tranquillement la situation, on peut rester dans des normes habituelles de sérénité, à ce moment-là, notre témoignage sera valable.
Le père Jean Fontaine, interrogé par nos confrères de la rédaction italienne. Des politiques italiens souhaitent que le pape François se rende au Parlement et qu'il prononce un discours devant les deux chambres réunies. Ils se disent convaincus que ces paroles constitueront un message fort pour la classe politique et la nation tout entière. Certains d'entre eux ont assisté dimanche à Rimini à la messe d'ouverture du meeting pour l'amitié entre les peuples, organisé depuis plus de 30 ans par le mouvement catholique italien Communion et Libération. Le meeting est une véritable institution en Italie. Depuis sa création en 1980, des personnalités politiques, des chefs d'entreprise, des responsables religieux, des intellectuels et des artistes y participent. Cette année, l'inauguration de cette manifestation a été marquée par la présence du chef du gouvernement italien, Jean-Baptiste Coccagne.
Pour Enrico Letta, il est urgent de s'atteler à la réforme de la loi électorale. C'est la priorité. La nouvelle loi devrait être approuvée au mois d'octobre. Le chef du gouvernement italien a profité de la tribune de Rimini pour fustiger les professionnels du conflit politique. Il s'est engagé à sortir l'Italie de la crise en affirmant qu'il ne permettrait à personne d'interrompre ce processus. Face à la montée de l'euroscepticisme, Enrico Letta a exhorté l'Union européenne à se montrer plus proche des citoyens. Il a été applaudi quand il a évoqué la mémoire du chancelier allemand Helmut Kohl. Dans un message vidéo, le président Napolitano avait auparavant constaté sans détour le déclin de l'Union européenne en raison de son retard sur le plan économique et social. S'il est vrai que la crise arrive de loin, a estimé le chef de l'État italien, il est tout aussi vrai que les classes dirigeantes européennes n'ont pas su faire face au changement. L'Union européenne doit donc se montrer plus unie si elle ne veut pas être emportée par la globalisation. Le président Napolitano est favorable à la circulation des jeunes intelligences. Quant à l'Église, il affirme qu'elle a un rôle à jouer contre le défi que représente aujourd'hui l'appauvrissement spirituel et culturel de la société.
Les églises européennes sont à la merci des voleurs. Alors certains sont tentés de fermer les lieux de culte en dehors des offices, alors que d'autres pensent, au contraire, que c'est en les ouvrant au public qu'on réduit les risques de vol. Le phénomène est européen, il touche des pays comme la Belgique ou l'Espagne. Récemment, l'épiscopat espagnol a demandé aux paroisses de prendre des photos de tous leurs biens et d'en faire un inventaire exhaustif. Antonino Gallofaro.
Un vol est commis en moyenne chaque semaine dans les lieux de culte en Belgique. Comme dans les pays voisins, ces bâtiments sont de plus en plus la cible de voleurs qui visent des pièces de grande valeur. Tableaux, statues, reliquaires, chandeliers ou encore ornements, bijoux, documents et livres. Les butins revendus à des antiquaires peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a quelques mois, l'épiscopat espagnol a publié un document visant à unifier les pratiques de sécurité sur l'ensemble du territoire. Il conseille aux paroisses de ne pas exposer les biens ayant une valeur historique et artistique dans l'église ou dans la sacristie, à moins d'adopter des mesures de sécurité. En Europe, certains responsables religieux font le choix de fermer les lieux de culte en dehors des offices, une attitude que désapprouve la fondation Église Ouverte. Fondée en 2006, elle se propose au contraire de mettre en valeur le patrimoine des édifices religieux. Selon elle, en ouvrant les églises aux visiteurs, on réduit le risque de vol. La fondation fournit des conseils de sécurité. Ainsi, grâce à un procédé technique, on peut marquer de manière presque invisible les œuvres avec un code. Une base de données permettra de retrouver l'objet dérobé. Pour son fondateur, Marc Heinen, une église est un espace ouvert à tous pour célébrer le culte, réfléchir, croire, prendre du recul, mais aussi un endroit de méditation ou d'apaisement, un point de ralliement dans le paysage, un signe de reconnaissance et un trésor au point de vue du patrimoine.
Autre problème, l'entretien du patrimoine religieux coûte cher et avec la baisse des vocations et de la pratique religieuse, des églises désertées et dégradées en France sont de plus en plus souvent détruites, vendues ou réutilisées, parfois en mosquée, puisque les musulmans manquent cruellement de lieux de culte. La situation pourrait contraindre l'Église catholique de France à renoncer à environ 10% du patrimoine cultuel dont elle dispose encore d'ici à 2030, si on en croit certaines projections. Olivier Bonnel.
Selon des évaluations qui restent inachevées, il y aurait environ 47 000 édifices religieux en France, dont 44 000 catholiques. Depuis 1905, la plupart sont la propriété de l'État, via les communes ou les collectivités territoriales. Mais d'autres appartiennent aux diocèses ou à des congrégations religieuses, voire à des propriétaires privés ordinaires. L'entretien de ces bâtiments a été relativement bien assuré par les pouvoirs publics jusqu'à notre époque, mais les contraintes budgétaires vont compliquer sérieusement cette tâche. Le site spécialisé Patrimoine en blog dénonce 242 églises menacées, dont 16 à Paris, et il estime que 16 églises ont été récemment démolies et 4 provisoirement préservées de leur démolition envisagée. Dans le sud de la France, la situation est encore plus tendue à cause de la convoitise exercée par les terrains ou les bâtiments qui seraient rendus disponibles. Dans un environnement où les prix sont élevés et les biens disponibles rares, chaque remise en question de l'utilisation de tel ou tel édifice provoque des polémiques et des recours. À Béziers, par exemple, la destruction d'une église a été décidée pour permettre la construction d'un programme immobilier de 2 immeubles. À Sète, l'ancien couvent du Carmel a été mis en vente par la Fondation des monastères après le départ des dernières religieuses. Une rumeur, évoquée par le journal Midi Libre, dit que la municipalité pourrait racheter elle-même l'emplacement pour le transformer en parc.
Des nouvelles de Benoît XVI qui a effectué une brève visite dimanche après-midi à Castel Gandolfo où se trouve la résidence d'été des papes. Dans la plus grande discrétion, il s'est promené dans le parc qui domine le lac et récité son chapelet. Puis il a assisté à un bref récital de piano avant de rentrer au Vatican dans la soirée. Le pape émérite, je vous le rappelle, s'est retiré dans un ancien monastère sur la colline du Vatican. Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François a quant à lui choisi de passer l'été au Vatican, dans la résidence Sainte-Marthe et de ne pas se rendre dans le palais pontifical de Castel Gandolfo, localité pourtant réputée pour sa fraîcheur. Il n'y a fait que 2 apparitions, dernière en date, le 15 août, pour la fête de l'Assomption. Pour le cardinal Pell, l'état de grâce du pape François auprès des médias profanes ne durera pas. Elle est trop bonne pour résister au temps. Dans un entretien publié il y a une dizaine de jours par un journal catholique britannique, l'archevêque de Sydney recommande une réforme de la communication du Vatican. Il reconnaît que le Vatican a réalisé des progrès énormes en matière de communication, mais selon lui, cette évolution doit se poursuivre. Le cardinal Pell, qui est l'un des 8 cardinaux chargés par le Saint-Père de le conseiller dans la réforme des institution romaine, estime ainsi que tous les outils de communication du Saint-Siège, Radio Vatican, Internet, l'Osservatore Romano devraient être développés. « La crise égyptienne dont nous avons parlé en ouverture de ce magazine rebat les cartes diplomatiques dans la région, selon les observateurs. Le journal Le Monde rappelle ainsi qu'il y a un clivage profond dans le monde arabe qui oppose le Qatar à l'Arabie saoudite. Entre Doha et Riyad, la concurrence fait rage. Or, actuellement, le principal perdant est le Qatar, qui a hébergé, encouragé et financé les différentes branches des frères musulmans. De l'Égypte à la Tunisie, en passant par la Libye, la Syrie et le Hamas dans la bande de Gaza. Critiqué de toutes parts pour son agressivité et pour la couverture biaisée de sa chaîne de télévision Al Jazeera, le Qatar est en recul partout. Il y a un an, il se voyait en nouveau phare du monde arabe sunnite. Or, cela fait un moment que les actions de ce richissime pays du Golfe suscitent des réactions contrastées, notamment en France. Au forum de Doha, en mai dernier, la délégation française était la plus nombreuse, alors que l'importance des investissements massifs du Qatar dans l'Hexagone suscite une inquiétude récurrente. Immobilier, médias, sports, grands magasins, hôtels de luxe, à chaque nouvelle acquisition, le débat sur le danger de la mainmise du Qatar en Occident refait surface. À l'automne dernier, une affaire avait suscité un vif débat. L'annonce que des capitaux du Qatar seraient utilisés en France pour améliorer la situation des banlieues en grande difficulté, ainsi que de certaines régions paupérisées de l'Hexagone. Olivier Tosserie avait interrogé un Salésien, le père Jean-Marie Petitclerc, polytechnicien, éducateur spécialisé dans les zones sensibles. Je vous propose de réécouter cet entretien dans le cadre de nos rediffusions estivales.
Il s'agit à la fois d'une opportunité et d'un risque. Une opportunité parce que effectivement la banlieue a besoin d'argent en termes de développement de projets et avec la crise qui secoue aujourd'hui notre pays, il y a deux incidences. Là, c'est une plus grande précarité des jeunes, des familles et puis une diminution des subventions publiques. Donc on pourrait dans un premier niveau de lecture se dire c'est une opportunité. Deuxième chose, c'est qu'à mon avis il y a quand même un risque. Bon, le risque c'est toujours le développement du communautarisme. Je crois qu'on s'aperçoit en France aujourd'hui que toutes les initiatives qui ont consisté à financer des activités dans les quartiers pour les gens des quartiers n'ont pas enrayé le phénomène de ghettoisation et qu'aujourd'hui l'essentiel c'est d'ouvrir les quartiers sur la ville, de favoriser les initiatives qui développent la mobilité, qui favorisent l'apprentissage de la mixité sociale. Alors je ne sais pas quels vont être les critères d'attribution de ces subventions en provenance du Qatar, mais si le critère c'est que ce soit une association menée par des jeunes des quartiers au profit des gens des quartiers, je crois qu'on est toujours dans cette logique de ghettoisation qui peut être renforcée et que ça ne solutionnera pas vraiment le problème actuel de la ville.
Alors vous parliez il y a quelques instants de communautarisme. Est-ce que justement ces populations des quartiers qui parfois regardent plus vers le monde arabe que vers la France ne vont pas être encore plus confortées dans cette attitude ?
Oui, moi je crois que c'est un risque. C'est vrai que dans les quartiers, la proportion de population se référant à l'islam va grandissant. Et effectivement, si c'est donné à tous ces jeunes des quartiers l'impression que c'est le monde arabe qui leur apporte plus d'aide que la République française, je trouve que cela risque de virer au contre-message au niveau de notre République.
Et qu'en est-il de l'islam radical qui pose de plus en plus de problèmes ?
La difficulté, c'est effectivement parfois le lien entre cet islam radical et puis l'instrumentalisation de jeunes qui se sont inscrits dans la délinquance, quoi. Donc c'est un peu comme on le voit toujours, hein, on assiste aussi encore des fois les connexions entre des mouvances idéologiques très fortes et puis les mouvances du banditisme. Nous, c'est ça qu'il nous faut dénoncer. Comment effectivement permettre à ces jeunes un véritable avenir dans notre République pour qu'ils ne se tournent pas vers ces voies-là, parce que reconnaissons aussi que les proies de cet islamisme radical, ben, ce sont quand même des jeunes désœuvrés, en déshérence. Tu sais qu'en France, le lieu de conversion à l'islamisme radical, ce sont nos prisons. C'est assez terrible. On a une opinion publique paradoxale. L'opinion publique souhaite mettre de plus en plus de ces jeunes en prison. Or, ce sont nos prisons qui sont le premier foyer de conversion à l'islamisme radical. Lorsque, à ces jeunes sanctionnés pour leur délinquance, voici que des co-détenus et co-religionnaires leur présentent un justificatif idéologique à leur délinquance.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous rejoindre sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican en français. Merci de votre fidélité.